Shalom les koulam, erev tov, les koulam, shalom, shalom, shalom. Alors erev tov, est-ce que tout le monde m'entend bien? Comme d'habitude, on fait notre petite vérification visuelle et sonore. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut commencer notre cours? Donc faites-moi un petit signe et on se lance. Petit signe, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Ken, oui, j'ai eu du oui, c'est parfait, alors on peut y aller. Yofi, Erev Tov, les Koulam. Et donc, on revient dans un nouvel épisode de la Neshama de la Mishnah. Alors, comme je vous l'ai dit en fin de cours la semaine dernière, je m'excuse platement du fait que je n'ai point respecté l'ordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté ma serrette et rouvine, mais voilà, donc j'essaye de rattraper l'erreur. Et donc, après qu'on ait eu des mishnayot sur ma serrette brachot, des mishnayot sur ma serrette shabbat, on a sauté directement à ma serrette psachim, et ensuite on a parlé de yoma. Et donc, je me suis dit, on n'a pas parlé du tout de ma serrette et rouvine. Et donc aujourd'hui, c'est parti, nous allons étudier une Mishnah dans Maseret Eruvin, dans le chapitre 10, c'est-à-dire le dernier chapitre de Maseret Eruvin, et à la Mishnah Aleph. Donc première Mishnah du dernier chapitre de Maseret Eruvin. Ok ? Alors c'est parti. Eruvin, a priori, est un traité qui va nous parler du Eruv dans toutes ses sortes, dans toutes ses dimensions, si on veut. Mais la première chose qu'on doit se poser comme question, et en fait, c'est la question qui est la question de base qu'on se pose quand on ouvre la Mishnah dans Eruvin. Vous savez que, je vous ai déjà expliqué ça souvent, que la première Mishnah d'un traité, en général, ouvre l'ambiance du livre, du traité, et va nous donner une vision globale sur à quoi, en fait, on va faire référence pour de vrai profondément dans ce traité. Et quand on regarde, eh bien, la première Mishnah de Maseret Eruvin, on ne va pas rester dessus et s'y intéresser énormément, mais quand on regarde la première Mishnah, qui nous, je vous cite, « Mavoi sheu gavoa le mala me esrim mama yema'et »« Rabbi Yehuda Omer eino tzarich » De quoi parle-t-on? Alors, pourquoi je ne vais pas m'étendre sur la première Mishnah de Maseret Eruvin? Pour la simple raison, certes, vous allez me dire quel rapport, vous comprendrez le rapport, on en reparlera lorsqu'on traitera de la première Mishnah de Maseret Souka. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais simplement, elle nous permet de comprendre de quoi on parle. On parle d'un Mavoï. D'un Mavoï, c'est-à-dire d'un chemin qui va nous permettre de faire la jonction entre deux Réchouyot. Quand on avait étudié la Mishnah dans Shabbat, qui nous parlait des travaux de Shabbat, et quand on avait parlé de ce travail qui s'appelle Motsi Mirshut Lirshut, eh bien, on avait expliqué que cette dimension de Réchouyot, c'est la séparation finalement entre notre monde et Akadosh Baruch Hu. Le Eruv a pour rôle de rattacher les différentes Réchouyot, de n'en faire qu'un seul. C'est-à-dire que le but du Eruv est de montrer qu'il n'y a pas finalement tant que ça de séparation entre le monde d'Akadosh Baruch Hu et le nôtre. C'est le but du traité complet de Maseret Eruvin. Et quand maintenant on va rentrer dans le dixième chapitre, à la première Mishnah, c'est un chapitre qui vient conclure le traité, et il parle de plein de choses qui a priori n'ont rien à voir. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que ces choses-là qui sont évoquées dans ce dernier chapitre, eh bien, sont tout simplement les applications métaphysiques et concrètes du traité de Eruvin pour rassembler les mondes entre celui d'Akadosh Baruch Hu et le nôtre. Alors allons-y dans notre dernière Mishnah du dernier chapitre, première Mishnah, Perek Asiri, Mishnah Aleph. Amotze tefilin, machnisam zug zug, Rabban Gamliel omer, shnaim shnaim, במה דברים אמורים? בישנות. אבל בחדשות פטור. מצן, צוותים או קריחות, מחשיך עליהם ומביאן. ובסכנה מכסה והולך לו. Makoré. Qu'est-ce que c'est que cette Mishnah? Alors, littéralement, techniquement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette Mishnah? Eh ben, un problème technique. Imagine, tu es en train de te balader et tu vois à l'extérieur de ce qu'on appelle Troum Shabbat, c'est-à-dire c'est à l'extérieur de la zone où tu peux te balader pendant Shabbat, tu y vois là-bas des tefillines. C'est pendant Shabbat, évidemment. C'est Shabbat et tu y vois là, à l'extérieur des tefillines. On te dit, eh bien, tu peux les rentrer dans le Troum. Maintenant, comment les rentrer? Dans ce qu'on appelle Bederech Levisha. C'est-à-dire, tu mets le tefillin de la tête sur la tête, le tefillin du bras comme il faut, et tu rentres avec. Et la Gemara, évidemment, va poser la question, comment est-ce possible qu'on mette des tefillin pendant Shabbat? Et la Gemara de répondre là-bas, hein, que ce n'est pas Bederech Tefillin, là, c'est Bederech Levisha. C'est-à-dire, je les mets comme si je mettais un chapeau. Rabban Gamliel n'y a dit, c'est-à-dire, mais si tu trouves plusieurs paires de tefillin là-bas dehors, eh bien, tu peux les rentrer schneim schneim, c'est-à-dire deux sur la tête en même temps et deux sur le bras en même temps, et tu les rentres. Après, on te dit, oui, mais ça, c'est vrai pour des tefillin yeshanot, qui ont déjà servi. Mais si tu vois des tefillin chadashot, c'est-à-dire des boîtiers qui sont complètement neufs, eh bien, il y a fort à penser qu'il n'y a pas dedans de parchemin. Et donc, à ce moment-là, tu les laisses là où ils sont, zeshum davar, c'est même pas considéré véritablement comme des tefillin. Si on te dit que tu les trouves dans un endroit où ils risquent de s'abîmer s'ils restent là-bas et que tu ne veux pas les rentrer dans le troum, tu peux rester à côté de cette filine jusqu'à la nuit et ensuite les rentrer. Par contre, si on te dit que c'est dans un endroit de sakana, eh bien, tu les recouvres et tu t'en vas. Voilà le commentaire halakhique très technique de cette Mishnah. En fait, cette Mishnah qui nous parle des tefillines ici, eh bien, est une Mishnah extrêmement profonde dans ce qui est de l'enseignement du dévoilement de la Torah de manière générale. Pour cela, il va falloir qu'on remonte à l'origine et qu'on se pose des questions. Les amis, d'où vient la mitzvah de mettre les tefillines? D'où ça vient qu'il faut mettre les tefillines? D'où je sais qu'on doit mettre les tefillines? Est-ce que quelqu'un a une idée? D'où on sait qu'il faut mettre les téfilines? Bon, c'est une question, vous allez me dire, assez triviale. Et pourtant, je la pose. D'où ça vient qu'on doit mettre les téfilines? Quelqu'un a une idée? Oui, oui, non, non. Pas de réaction? Eh bien, puisque vous n'avez pas de réaction, je vais vous dire quelle est la réaction générale. Kadesh Likol Bechor, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est une des parachutes des tefillines, effectivement. Mais dans la parachute de Kadesh Likol Bechor, c'est pas là que tu apprends qu'il faut mettre les tefillines. Ce qu'on entend en général, c'est quoi? C'est que nous avons un verset dans la Torah. Voilà. Veine elot al yadecha, vayu le totafot benenecha. Le problème de dire cela, c'est que ça va complètement à l'encontre. Ah voilà, il y a le schéma, l'oral. Alors maintenant, on va essayer de faire un peu de seder. D'où on a appris qu'il fallait mettre les téfilines? Eh bien, pour le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, qui était le grand frère, slicha, de Rabbeinu Tam, et qui était également le petit-fils de Rashi. Donc c'est une famille où on s'occupe des tefillines énormément. Vous savez qu'on a les tefillines de Rashi et les tefillines de Rabbeinu Tam. On va encore en reparler. Mais le Rashbam, pour lui, eh bien, la mitzvah de mettre les tefillines n'est marquée nulle part dans la Torah. N'est marquée nulle part dans la Torah. Et lorsque on va lui demander, mais alors, qu'est-ce que tu fais du pasouk dans la paracha de Bo, qui nous dit, va y'a le tot ben aliadecha ve l'utafot ben enecha. Ben voilà, justement, Alex. Le Rashbam nous dit, quand on parle de ce verset dans la paracha de Bo, quand on nous dit, nous dit le Rashbam, bien que Sabi Mori, donc Rashi, a dit qu'il faisait référence ici au Tefilin, Zé l'homme acheda ati, elle a le fi omet pshuto shel mikra, nous dire le Rashbam, en vrai, en vrai, en vrai, quand il y a marqué Vayu le Totafot Benenecha, ou les Zikaron Benenecha, ou les Hot Aliadecha, ou Tafot Benenecha, eh bien, cela veut dire que les Tefilines, pas du tout. Mais ça veut dire que la sortie d'Égypte doit être pour toi les Hot Aliadecha, c'est-à-dire que tu dois, dans toutes tes actions, te rappeler de la sortie d'Égypte, et ça doit être le Totafot Benenecha. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a Totafot Benenecha, tu dois avoir tout le temps les téphilines entre tes yeux, c'est-à-dire dans ton cerveau. C'est quoi ? C'est Totafot, nous dit le Rashba, mais en fait il reprend Rashi là pour le coup, c'est un tarchit, c'est un bijou. Il dit, de la même façon que les dames se baladent jamais sans leurs bijoux. Alors, à l'époque, hein, je ne sais pas si aujourd'hui toutes les dames se baladent tout le temps avec leurs bijoux, mais à l'époque, on dit, de la même façon que les dames, elles sont toujours avec leurs bijoux, elles avaient un bijou qui s'appelait Totefet, c'était un truc qu'on mettait sur le front, et bien de la même façon que les femmes ne se séparent jamais de leurs bijoux, et bien toi non plus, tu ne te sépareras jamais de la, du rappel que Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte. Donc pour le Rashbam, la mitzvah de Tfilin n'est pas marquée là-bas. Elle n'est pas marquée dans le schéma, elle n'est pas marquée nulle part. Et pourtant, nous dit Rashbam, c'est une mitzvah d'Oraïta. Mitzvah d'Oraïta, nous dit le Rashbam, les tfilines. Et pourtant, elle n'est pas marquée dans la Torah. Eh bien, de là, hein, les tfilines sont des représentations égyptiennes, les serpents autour du bras. Attends, là, pour l'instant, je ne sais même pas encore d'où ça vient. Pour l'instant, j'essaie de comprendre ce que me dit le Rashbam. Le Rashbam me dit que c'est une mitzvah d'Oraïta, mais d'un autre côté, elle n'est pas marquée dans la Torah. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre conception de d'Oraïta et des Rabbanan est peut-être un petit peu erronée. On a l'habitude de penser que ce qui s'appelle d'Oraïta, c'est ce qui est marqué dans la Torah, et ce qui s'appelle des Rabbanan, c'est ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais qui vient des Chachamim. Eh bien, les amis, c'est une erreur. Ce qui s'appelle d'Oraïta, c'est ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Que ça soit marqué dans la Torah ou pas. Et ce qui s'appelle des Rabbanan, c'est ce qui est ordonné par les Chachamim depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui et non pas par Akadosh Baruch Hu. Que ce soit marqué ou pas. Nous avons des mitzvot des Oraïta qui ne sont pas marqués dans la Torah et nous avons des mitzvot des Rabbanan qui sont marqués dans la Torah. Exemple, alors je ne vais pas prendre Tfilin comme exemple, mais un autre exemple qui est accepté par tous, nous avons un interdit dans la Torah de se marier avec sa fille. C'est un interdit d'Oraïta, Issur Bito, mais il n'est pas marqué dans la liste des relations interdites dans la paracha de Emor. Donc c'est d'Oraïta, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. D'un autre côté, nous avons d'autres lois qui sont marquées dans la Torah et qui sont pourtant des Rabbanan. Par exemple, Ktouba. Ktouba, c'est marqué dans la Torah, Veiten lo kemo'ar abetulot, mais c'est mitzvah des Rabbanan, par exemple. Ok? Donc, ça veut dire que quand on, le Rashbam nous dit que, évidemment, que le tefillin c'est d'Oraïta, ça devient d'Akadosh Baruch Hu. Mais alors, d'où est-ce que toi tu l'as appris? Eh bien, Masoret Israël. En d'autres termes, on commence un tout petit peu à entre-comprendre notre Mishnah. Je reviens dans la Mishnah. Amotze Tefilin. C'est celui qui est Motze Masoret Bachout. C'est-à-dire, il a vu une Masoret Israël qui était Michout Satroum. C'est-à-dire, il a vu qu'il y avait quelque chose qui était du domaine de la tradition d'Israël qu'on avait mis à l'extérieur, qu'on n'avait pas ramené dedans. Machnisoto. Machnisoto. D'avoir Rishon. Il faut la rentrer à la maison. Ce qu'on appellera, dans le langage de la Kabbalah, Gilouy Nitzotzot Akedusha Shebetor Akediba. Quand tu vois une Masoret qui vient de la Kedusha, tu te dois de la ramener. Alors, deux secondes. Les Tfilines, on a dit, ça, on l'a appris de la part de la Torah Shebealpé, de la tradition du peuple juif. Ok. Beseder Gamour. Aval, à quoi ça sert? Les tefilin. Ma tam. Shel mitzvah tefilin. C'est quoi cette mitzvah tefilin? À quoi sert-elle? Eh bien, quand on n'écoute pas le bar mitzvah, qui va nous faire une dracha sur les tefillin, dans laquelle il dit tout, sauf ce qui a marqué à l'origine dans la Torah, quand on se pose la question de la Torah, les amis, eh bien, les choses sont très simples. Les tefillin sont tout simplement Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Pashut. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Tov, yafeh me'od. Mais en quoi? En quoi les tefillin, ces boîtes noires que je mets sur le bras et sur la tête, sont-elles en souvenir de la sortie d'Égypte? Alors vous allez me dire, parce qu'il y a des parchemins qui sont dedans et qui parlent de la sortie d'Égypte. Bessader. Mais les parchemins, à ce moment-là, en quoi le fait de les mettre sur le bras ou sur la tête me font être en souvenir de la sortie d'Égypte? Tu aurais pu me donner comme mitzvah de lire tous les jours les Arba Parchiot. Donc ça ne nous explique pas le fait de dire qu'il y a des parchemins qui parlent de la sortie d'Égypte. Ça ne nous explique pas pour dire comment est-ce que les tefillin sont zécher la sortie d'Égypte. Eh bien, en vérité, effectivement, le Rav Cherki nous a enseigné, mais ce n'est pas que le Rav Cherki. Les pharaons d'Égypte, les familles impériales d'Égypte, mettaient les tefillin. Et on les a tous vus, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des magazines, dans des livres, au musée. On a été au musée et on a vu le masque mortuaire de pharaon un tel ou un tel. Et on peut voir que les pharaons, et pas que les pharaons, mais toute la famille royale, mettaient sur la tête et sur le bras des tefillines. Bon, des tefillines un peu différentes de nous, puisque c'était des tefillines serpentueux. C'était un serpent qui était là et deux serpents qui étaient sur le bras. Aha. Les pharaons donc mettaient des serpents parce que le serpent représente totalement l'Égypte. Comme dit le prophète Irmiya, Ishaya, etc. Kola kan nachash olech. Mais il te dira également que Mitzrayim, Paro, Zeat Tanin, Agadol, Arovetz, Betor Yorav, dit Irmiya ou Anavi. Donc, il s'agit ici de la représentation type de l'Égypte, le serpent. Aval lama. Pourquoi le serpent était un animal central dans la culture égyptienne? Le serpent, pour les Égyptiens, c'est Apophis. Apophis, c'est le dieu de la nuit. Il est, si vous voulez, l'alter ego de Ra, qui est le dieu du soleil. Apophis est le dieu de la nuit. Mais attention, qu'est-ce que cela veut dire? Il est le dieu... chez les Égyptiens, il n'y a pas le bon et le mauvais. La nuit, ce n'est pas négatif. La nuit, c'est le moment où le dieu soleil se recharge dans son origine. Où est-ce qu'il va se coucher? Il va se coucher dans le Nil. Il faut comprendre une chose. En Égypte, tout le monde est esclave. La Torah appellera l'Égypte « Beit Avadim ». C'est-à-dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave de quelqu'un d'autre. Les esclaves sont les esclaves des patrons, les patrons sont les esclaves de Pharaon, Pharaon est l'esclave des dieux, et les dieux sont les esclaves du Nil. Tout est venu du Nil. Donc, la force centrale de l'Égypte, c'est la force de la nature. La nature est personnifiée par le serpent. C'est là-bas que tout va se régénérer. Pourquoi? Bien parce que le serpent est agol. La nature, c'est par définition le cycle. Comme le dira d'ailleurs très bien Mufasa Zatzal dans Le Roi Lion, où il dira, c'est le grand cycle de la vie. La nature, c'est le cercle. Sauf que la nature, le cercle, est très sympathique, mais a juste un problème, c'est qu'elle est dénuée de tout sens moral. La nature est indépendante de la morale. La question de la morale n'est pas une question qui se pose au niveau de la nature. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, eh bien la terre ne se demande pas est-ce que la maison qui est en train de s'effondrer c'est celle d'un sadique ou pas. La nature est amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale, dénuée de tout sens moral. Lorsqu'on sort d'Égypte, Eh bien, on veut montrer que notre attachement au divin ne repose pas sur la nature, mais repose sur la droiture, sur le choix moral de suivre l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, à savoir Akav Ayashar, la ligne droite qui implique cette droiture et cette morale. En d'autres termes, on a pris les tefillines égyptiennes et on les a convertis au judaïsme. On en a fait des kavim yesharim, des boîtes droites. Ainsi, évidemment que la sortie, que les tefillines représentent la sortie d'Égypte, nous rappellent la sortie d'Égypte, parce qu'on sait que, en Égypte, les premiers qui ont mis des tefillines, c'était les pharaons, seulement leurs tefillines à eux étaient rondes, donc dénuées de sens moral. Moi, je viens être métaken, ceci, et je vais rattacher ma vie à la dimension morale qui me rattache à Dieu. Hamotzet tfilin bachutz, machnisam, ou machnis otam, zug, zug. C'est-à-dire qu'il met à chaque fois une sur la tête, une sur le bras, et il les rentre. Ki chayavim lachnis. Il faut rentrer cette dimension de tfilin à l'intérieur. Mais attention, machnis otam, zug, zug. C'est-à-dire, on aurait pu penser, ramène la tefiline de la tête, et ensuite, tu ramènes celle du bras. Eh bien non. Tu dois les ramener zoug, zoug. Tu ne peux pas séparer la tefiline de la tête à la tefiline du bras. C'est gam kacha la halakha. On n'a pas le droit de séparer entre le fait de mettre les tefilines sur la tête et sur le bras. D'ailleurs, on va commencer par le bras et ensuite la tête. Chez les Sephardim, il n'y a qu'une seule bracha pour les deux. Et cette bracha, pourquoi il n'y en a qu'une? Parce que c'est la même action, on n'a pas le droit de faire un F-sec entre les deux. Même si les Ashkenazim vont faire deux brachot différentes, il reste quand même la halakha qu'on n'a pas le droit de parler entre les deux. Il n'y a pas le droit de faire un F-sec, une séparation entre les deux lamas. Eh bien parce que si les tfilines chez Baroche, eh bien, représente les marshavot, les pensées, les intentions. Les tefilines du bras représentent les actions. Tu ne peux pas séparer les intentions des actions. Il y a beaucoup de gens qui me disent et qui vous ont déjà dit « Ah non, mais moi, je suis Dati Balev. » Ah non, moi je suis super religieux, je suis plus religieux que les rabbins, hein, attention. Hein. Moi dans mon cœur, je suis super religieux. Hein. Mais ils ne font pas les mitzvot. Ils croient que Béhémet, dans leur marche à vote, ils sont à fond. Aval Ifchar. Tu ne peux pas détacher Tfilin chez Baroche avec Tfilin chez Liad. Les intentions et les actions doivent absolument être relié. Alors, Bessaler, Machnis Otam Zoug Zoug. Ah, d'ailleurs, autant pour moi, mais il y a une petite différence entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? C'est très simple. Quelle est la différence entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête? Pas shoot. Dans les tefilines du bras, il y a une seule boîte. Dans les tefilines de la tête, il y a quatre boîtes. Pas shoot. Il y a quatre boîtes dans les tefilines de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que dans les tefilines de la tête, il y a quatre boîtes, alors que dans les tefilines du bras, il n'y a que une seule boîte? Mais c'est pas shoot. C'est pas shoot merde. À savoir, hop là, c'est ça. Ouais. C'est pas shoot merde merde. Dans les tefilines du bras, il ne peut pas y avoir de plusieurs parachutes. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas y avoir plusieurs parachutes dans le bras? Eh bien, parce que vous comprenez que dans la roche, dans la tête, il y a plein d'avis. Plein d'avis. Plein d'avis différents. C'est-à-dire quoi plein d'avis? Il peut y avoir plein de façons différentes de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. À savoir, en l'occurrence, eh bien, il y a une façon qui s'appelle Kadesh Likol Bechor, c'est-à-dire la notion de Bechor. Ensuite, il y a une autre dimension de rattachement à Dieu qui s'appelle Ve'aya ki yaviacha Hashem el aretz ha-Kena'ani kasher nishbala va'avotecha. Et là, on te parle de Peter Sheger Kol Behema ve'Kol Peter Ramor. C'est-à-dire qu'on te parle du Bechor, encore une fois, de Pidyon à Bechorot. Et il y a une autre paracha qui s'appelle Shema Israël et une autre paracha qui s'appelle Vahem Shamoa, c'est-à-dire une paracha qui te parle d'accepter tout simplement Ol Malchut Shamaim et ensuite Ol Mitzvot. Quatre dimensions. Mais ces dimensions-là, et voilà, ces dimensions-là différentes sont légitimes quand elles sont au niveau de la Marshava, mais pas lorsqu'on parle de l'action. Effectivement, lorsqu'on parle de l'action, on ne peut pas avoir plein d'actions. On a une phrase qu'on connaît bien dans la Braïta, et qui est marquée dans le traité de Baba Metzia. On va nous dire là-bas que Elou ve Elou, à propos de Beth Hillel et Beth Shammai, on va te dire que Elou ve Elou divrei Elohim Chayim. Ça veut dire qu'il y a la vie de Beth Hillel et la vie de Beth Shammai. Et la vie de Beth Hillel et la vie de Beth Shammai, il est bon. Aval halacha ke Beth Hillel. Il y a une suite à Elou ve Elou divrei Elohim Chayim. Il y a plein de gens qui disent Elou ve Elou divrei Elohim Chayim. Genre tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Non ! Il y a des pensées différentes qui sont légitimes et l'une et l'autre. Aval halacha, l'action, c'est ke Beth Hillel. C'est-à-dire que l'action ne peut pas être séparée. Il y a quatre dimensions d'attachement à Dieu qu'on va pouvoir, d'après Chachma Kabbalah, faire correspondre à Pshat, Remez, Drash, Vesod. Mais au niveau de l'action, ça doit être uni. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer Tfilin Shel Rosh, Efoshesh Ta Kavanot Ve'amarchavot, avec Tfilin Shel Yad, là où il y a l'action du quotidien. Donc, une fois qu'on a dit cela, bah, j'ai envie de te dire, ok, c'est bon, on a compris l'idée. On a compris l'idée des Tfilin. À quoi ça sert, Yetziat Mitzrayim, on a bien compris, ça nous rappelle. On a converti la relation au divin naturel de l'Égypte à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus moral dans les Kavim Yesharim. On a compris qu'on ne pouvait pas faire la séparation entre le bras et la tête. À Kol Beseder. Aval. À quoi elles servent, ces Tfilin? À quoi elles servent, cette filine? Bémet, Sheila Tova. Dans la suite de la Mishnah, donc qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais revenir dans deux secondes sur Verabin Gabriel Omer, Shnaim, Shnaim. C'est-à-dire, dans deux secondes. Avamrim, ben matvarim amurim, beishanot, avallo bechadashot. Mastomeret, beishanot ken. C'est-à-dire que lorsqu'on te parle d'une tradition qui a ses sources dans l'histoire du peuple d'Israël, Asken. Asken, c'est bon, tu peux y aller. C'est-à-dire que c'est une tradition, alors elle rentre. Car en fait, la seule chose qui est sûre dans le judaïsme, c'est la transmission de la tradition. C'est la seule chose qui est sûre, et c'est pour ça que je l'ai déjà dit très souvent, et je le redis ici, la meilleure source pour savoir si ce que tu fais c'est bon ou pas, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas le Réma, c'est ta grand-mère, ton grand-père. C'est la meilleure source pour savoir si c'est vrai ou pas. La transmission de la tradition est le bien le plus important du judaïsme. Donc, Miashé Yeshanot, Vadaï Machnissim. Ah, Chadashot! Maze Chadashot! Maze! Chadashot et alo machnis. En minhag chadash. Il y a des minhagim qui sont inscrits dans l'essence même du judaïsme. On n'invente rien. On développe, on améliore, on fait évoluer en fonction d'eux. Mais les mêmes halachot, c'est exactement les mêmes halachot quand moi je cacherise mon micro d'Apessar, que lorsque les Israël dans le désert, ils ont cacherisé je sais pas quoi. C'est juste qu'il y avait un micro-ondes et il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque. Donc, on a adapté en fonction du micro-ondes. Mais c'est les mêmes traditions. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Rabban Gamliel nous dit Shnaim, Shnaim. Mazé Machnissam, Shnaim, Shnaim. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à Sipourazé? Pour Rabban Gamliel, tu peux amener les tefilines dans le troum deux par deux, c'est-à-dire deux sur la tête et deux sur le bras. Mais Anien. La Gemara dans Masechet Menachot va nous expliquer qu'il y a physiquement parlant, parce que tu peux pas mettre les tefilines n'importe où. Où est-ce qu'on met les tefilines? Mais là, si je mets ma tefiline là, ça passe? Non. Ça passe pas. La tefiline, c'est là. Et sur le bras, c'est là ou là, gaucher, droitier, l'homme chanel, enfin, droitier là, gaucher là, ok. Mais si je mets ma tefiline là, ça marche pas non plus. Il y a un endroit où on met les tefilines. Dis-la que maintenant, Menachot, il y a de la place dans le bras de l'homme et dans la tête de l'homme pour mettre deux tefilines. Yesh makom. C'est-à-dire que l'endroit où tu dois mettre les tefilines, ça peut contenir deux boîtiers. Agave, si vous avez l'occasion des fois de temps en temps de voir certains mekoubalim qui mettent également les tefilines de Rabbeinu Tam, vous verrez, des fois ils sont avec deux tefilines en même temps. Et c'est exactement là que je veux en venir. Il y a deux dimensions de tefilines. Il y a les tefilines de Rashi. Et là, les tefilines de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que ça dit? Quelle différence? Quelle différence entre Rashi et Rabbeinu Tam? Mais maître, la différence, elle est très simple. La différence repose dans l'ordre dans les tefilines chez le Roche, dans l'ordre de leur apparition dans le boîtier. Ok? C'est-à-dire, chez Rashi, c'est parashat Kadesh Likol Bechor, après c'est Peter Rechem, après c'est Shema, et après c'est Vaya Im Shamoa. Ok, ça c'est l'ordre des parashiotes dans les tefilines de Rashi. Aval, dans les tefilines de Rabbeinu Tam, eh bien, c'est tout simplement que, au début, on va mettre Vaya Ki Eviacha, alors que normalement, ça, c'est la deuxième, et on va également, on va changer également la dimension de, comment ça s'appelle? Oh là là, Vaya Mshamoa avec Shema. Donc, il y a un changement dans l'ordre des parachiotes entre Rabbeinu Tam et entre Rashi. Mais quel est ce changement-là? Alaha, c'est comme Rashi. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, ce changement? Ce changement nous dit la chose suivante. Est-ce que tu commences comme étant le Bechor d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce que tu commences comme étant d'abord au service du monde? Bechor d'Akadosh Baruch Hu? Donc au service de lui ou au service du monde? Eh bien, Alpi Torah Taniglé, tu es d'abord au service d'Akadosh Baruch Hu. Alpi Torah Tanistar, tout ce que tu fais ici, c'est pour aider le monde à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, deux torotes pour deux sortes de tefilines. Est-ce que mon rôle est de moi me relier à Dieu, ou est-ce que mon rôle est d'apprendre aux autres à se relier à Dieu? Alaha Ani Kodem, Rabbeinu Tam, Kulam Beyachad. On parlait du Rashbam tout à l'heure, on peut se poser la question, qu'est-ce que Rashbam il mettait comme tefilin? Est-ce que comme son frère ou est-ce que comme son grand-père? On peut même se poser la question à propos de la Haggadah, on ne sait pas si c'est vrai que les filles de Rashi mettaient les tefilin. Donc la mère de Rabbeinu Tam, elle mettait comme son fils ou comme son père? Le Yedéa. Je ne sais pas. La vérité, bonne question. Macheloye, il semblerait que la halakha nous dit c'est d'abord alpi anigré, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Rabbeinu Tam vient et dit, ben c'est vrai. Une fois que tu as compris ça, tu dois mettre cela en rapport avec ta relation au monde. Ceux qui font les deux, Eh bien, ils ont compris l'union des deux. Mais vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que les tfilines sont à mettre en relation avec les pharaons d'Égypte. Intéressant. Oui, très intéressant, parce que d'après Chachma Kabbalah, eh bien, Torah Taniglé, c'est le tikkun du Nahash Akadmoni. C'est le tikkun de ce Nahash qui nous a fait tellement souffrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... autant pour moi. Torah Taniglé, c'est Torah Tanesher. C'est l'animal qui nous permet, grâce à notre cerveau, de nous élever à la compréhension de la Torah. Ve'ot she'anistar, c'est atikun she'ananachash ha'kedmoni. Mais anien, que sur la majorité des pharaons, on trouve un serpent, comme on a dit. Mais c'est très intéressant de voir que sur le masque mortuaire de Toutankhamon, eh bien, on a retrouvé qu'il mettait les deux tefilines, il était possède gam kmo Rashi, et gam kmo Rabbeinu Tam, on voit un serpent et un aigle sur son masque mortuaire. Mais anien. Et c'est ce que nous dit ici Rabban Gamliel. Shnaim, t'en mets deux sur la tête et deux sur le bras à chaque fois pour les rentrer. Parce que tu ne peux pas ne pas penser à l'autre. Alors pourquoi est-ce que la halakha ne nous a pas dit qu'il fallait faire ça? Parce que la halakha nous dit choyer. La halakha nous dit les choses vont se faire, ben c'est l'air, va l'atlat. Et c'est pour ça que la Mishnah continue, elle nous dit Matzam tsevatim o kerichot marchich aleem ou meviam. Maza sipuraze. Matzam tsevatim. C'est-à-dire qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors qu'est-ce qu'on fait? O kerichot. C'est-à-dire que et ils sont tous mélangés les uns les autres. Tu n'arrives pas à les sortir. Et il y a des ksharim qui ont été faits, tu ne peux pas les enlever pendant Shabbat. Asma Koré. C'est-à-dire que quand il y a tellement de pitouim, quand il y a trop de choses là-bas qui sont... j'arrive pas à les gérer. Il y a trop d'idées, il y a trop de rayonot. Zeme balbel oti. Tarchichitam. C'est-à-dire que tu restes avec les tfilines jusqu'à la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shabbat Shalem, tu vas essayer de comprendre. Et une fois que tu auras passé la nuit, que tu auras sorti Shabbat, en bisrout à Shabbat, tu vas pouvoir les rentrer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où s'il y a trop de façons de se relier à Dieu, le meilleur moyen, c'est de dire, Tov, Odlo. Il va falloir que je me remplisse de Kdushat à Shabbat, c'est-à-dire de la Kdusha que Oti, Beni ou Ben Beni Israël, que j'ai créé le monde, me remplir du divin, pour qu'après Shabbat, je puisse trouver un moyen de les rentrer. Ah ben attention. Imesh Sakana, Azlo. Imesh Sakana, c'est pas possible. Eh, Mesaken, Imesakana, c'est ça. Mechassan ve Olechlo. Si c'est trop dangereux de rentrer cette filine-là, si c'est trop, c'est pas de rentrer, de rester, quand la Shabbat Bachutz, c'est Imata Michutz la Troum, Yoter Midai, et c'est dangereux pour toi, tu risques de te perdre là-dedans. Mechase ve'olechlo. C'est-à-dire que, ici nous dit la Mishnah, si tu es capable de nager en eau profonde, alors vas-y. Si tu n'es pas capable, n'y va pas. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Si tu es comme ta nakama, c'est-à-dire si tu es comme la Mishnah, la base, qui nous dit Martissim zouk zouk, alors, qu'en irait que toi, si jamais t'en trouves trop dehors, alors tu devras les couvrir et rentrer. Ah ben, si jamais tu es possède comme Rabban Gamliel et que tu es madlik gam et Rabbeinu Tam, c'est-à-dire que tu n'as pas peur parce que tu as aussi Torah Tanistar, alors ça te fait pas peur d'aller là-bas pendant tout le Shabbat. Zelo mesaken notra. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Pourquoi est-ce que c'est si important de nous parler de cela? Je veux dire, Amotse Tfilin, Martissam. Tu comprends bien que c'est quand même rare comme cas. Que tu te balades et Bichout, Svetroum, Shabbat, Bidyuk, t'as plein de zouk de Tfilin. On va dire que c'est pas le cas le plus classique. Pourquoi est-ce que la Torah nous en parle? Parce qu'il s'agit pas simplement de Tfilin. La mitzvah de Tfilin a un rôle. Le rôle de la mitzvah de Tfilin, pour nous, c'est de nous rappeler la sortie d'Égypte. Mais on a dit, il y avait aussi une autre dimension qui est pour le monde. Et bien, c'est quoi la mitzvah des tefilines pour le monde? Pas que eux, ils font les tefilines. Pas que eux, ils mettent les tefilines. Nous, on met les tefilines. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ben, ça veut dire que Shem Hashem Nikra Alecha. Veyagidu kol agoyim ki Shem Hashem Nikra Alecha. Al pi alacha, les tefilines ont pour rôle aux yeux des nations de leur montrer que lorsque Am Israël agit, il agit au nom de Dieu. Er. Eh bien, tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'il se balade, il a cette féline. Et donc, le nom de Dieu est sur lui. Le nom de Dieu est sur lui? Non, le nom de Dieu est dans les tefilines. L'âme sur lui. Ah! Alors, il y a deux façons de comprendre. La première est la façon, on va dire, la plus évidente. La deuxième est l'explication d'après la Kabbalah. La façon la plus évidente, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les tefilines, qu'est-ce qu'il y a marqué sur les tefilines? Dessus, hein, pas dedans. On a Chine, mais Chine bizarre. C'est-à-dire qu'on a un Chine à trois branches et un Chine à quatre branches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chine à trois branches, Chine à quatre branches, mazé. Mazé d'avarazé. Eh bien, l'explication proposée par le Rav Chagi Amitsour, qui est aussi chercheur, il explique la chose suivante. D'après la Torah, on sait que les tefilines, tu dois les avoir pour que les goïms disent que le nom de Dieu est marqué sur toi. D'un autre côté, ce verset, il vient quand? Il vient dans la parashat qui t'étsé, qui nous dit quand tu te sors en guerre, dans la parashat Shoftim, c'est la fin de la Shoftim, c'est lorsque tu sors en guerre. Lorsque tu sors en guerre, tu dois être avec tes tefilines sur la tête. Voilà. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai participé à plusieurs guerres. On ne nous a pas dit de mettre notre tefiline. Non, c'est parce que notre génération n'est pas au niveau. Mais à l'époque, ils mettaient leur tefiline à la guerre. Comment on le sait? Eh bien, on a retrouvé dans les grottes de combat des soldats de Bar Korva, des tefilines avec eux, avec les épées et tout ça. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas une preuve. Parce que peut-être qu'ils ont mis leur tefiline le matin et qu'après, ils les ont laissés dans la grotte et ils sont partis combattre. Certes, mais comment vas-tu expliquer le mur archéologique qui a été retrouvé par une expédition archéologique britannique dans la ville ancienne antique de Nineveh en Irak, exposé au British Museum de Londres? Là-bas, il faut savoir que cette expédition elle a retrouvé la salle du trône de Sanheriv Melech Ashur. Pas mal. Parmi les choses qui sont retrouvées là-bas, eh bien dans le palais de Sanheriv, qu'on a retrouvé donc à Nineveh, il y avait la salle du trône. Et dans la salle du trône qu'on a retrouvée, il y avait un mur, pas décoré, mais un mur gravé, où en fait, eh bien, Sanheriv a demandé qu'on y fasse sculpter dans le mur le journal de ses conquêtes. En fait, le mur décrit la conquête de la ville de Lachish. Lachish, Bemamlechet Yehuda. Bien fait. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Maintenant, je vous rassure, les artistes qui ont gravé ce mur-là, c'est des Assyriens. Ils n'ont pas étudié la Gemara. Donc, ils n'ont fait que graver ce qu'ils ont vu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette gravure incroyable? Eh bien, on voit là-bas les soldats assyriens lancer des flèches sur la muraille de Lachish. Et sur la muraille de Lachish, on peut y voir des combattants juifs. Ces combattants juifs, comment sont-ils représentés? Ils sont sur la muraille, on voit que leur tête, et on voit qu'ils ont une barbe. Bon, ça tu me diras, c'était la mode à l'époque, les soldats assyriens aussi, ils en ont une. Mais ils ont tous, et il y en a comme ça sept représentés, ils ont tous un serre-tête avec au milieu du front là, un carré. Un serre-tête et un carré. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les Assyriens sont venus, ils ont vu que les Juifs, ils avaient des lanières là, avec un carré au milieu. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils les ont représentés quand ils ont gravé. Et ça répond à la critique biblique qui dit que les tfilines, c'est une invention de l'époque du Beit Sheni. Ben non, tu vois qu'à l'époque du Beit Rishon, il y en avait évidemment déjà. Mais ça, c'est pour expliquer qu'à ce moment-là, alors il te dit « Shem Hashem Nikra Alecha » c'est qu'il y avait sur les tfilines le nom de Dieu. Ok, quand tu partais en guerre, mais quel rapport le nom de Dieu? C'est Shin Shin? C'est Afflelou? Ah, c'est Shin Shin? Okay. Non! C'est juste qu'à l'époque du Tanakh, on n'écrit pas avec le même alphabet que le nôtre. On écrit dans ce qu'on appelle l'hébreu ancien, Ktav Ivri Kadum. Or, en hébreu ancien, le Shin à trois branches ressemble à un Yud, alors que le Shin à quatre branches ressemble à un Hei. En d'autres termes, il est marqué Ya, le nom de Dieu. Avec les années et les époques, eh bien, on parle plus, enfin, on n'écrit plus en hébreu ancien, et donc, ça ressemblait à un Shin et un Shin. Yalla, Shin. C'est une façon de comprendre. L'autre façon de comprendre, c'est l'enseignement du Hari. J'ai pensé également que les fondateurs des arts martiaux en Extrême-Orient sont inspirés le serre-tête noir. Ah, Yecholiot. Yecholiot. Je ne savais pas. Peut-être. Mais sinon, il y a une autre explication. Cette autre explication, elle nous dit la chose suivante. Shem Hashem Nikra Alecha, c'est pas que sur la boîte. Nachon, Yesh Po Shin. Shin, c'est pas le nom de Dieu. Il y a également derrière un Dalet. Le Kesher, le nœud de derrière, doit faire la lettre Dalet. Et le Tchouk-tchik qu'il y a sur le bras, ou là, pour les droitiers, moi, je suis gaucher, c'est pour ça que je monte tout le temps le bras droit, parce que quand je pense filine, c'est le bras droit. Enfin bon, c'est un yud. Et ça va créer le mot Shaddai, vous avez bien compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hashin, mazé. Hashin, ben, comme on marche à vote. Le shin, c'est tout simplement représenté par trois kavim yesharim. Trois vaves qui sont mis ensemble. Le Vav, la lettre Vav, représente la Shefa qui part du ciel et qui arrive ici. Dans le monde de la Kabbalah, il y a plusieurs dimensions du monde d'en haut, qu'on appelle le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, le monde de la Hatzilut. Eh bien, ces trois Kavim descendent et transitent par toi. Tu reçois une Shefa énorme. Pour qu'elle puisse s'exprimer, il faut lui ouvrir la porte, la Delet du Dalet. Et une fois que tu as ouvert la porte, alors tu dois les concrétiser par un maasé, à savoir le tchouk-tchik qui est le yud. Le yud qui est la nekuda du maasé, la nekuda de l'action. On peut se poser la question, mais ce kesher de tfilin qui représente la porte ouverte qui laisse passer le dévoilement divin. On peut se poser la question, comment est-ce que Moshe l'a vu? Vous savez, le Midrash nous dit qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Renina et Kevodera, ça t'en entendra, mais Dieu lui a dit non, c'est pas possible, l'Irani Adam Vachai. Mais le Midrash nous dit qu'il lui a montré qu'elle cherchait le Tefilin. Je veux bien. Seulement quand on lit le Midrash en entier, on nous dit Itatef à Kadosh Baruch Hu Betalito, Veralo qu'elle cherchait le Tefilin. Et s'il a mis son Talit, Dieu, comment il a pu, Moshe, voir les Tefilin? C'était recouvert du Talit. Eh bien, en fait, le Midrash semble nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il était possèk la halakha comme le Rashba. Pas le Rashbam qu'on a cité tout à l'heure, mais le Rashba. Et qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Ben, le Rashba, il dit qu'il faut mettre les tefilines de la tête sur les vêtements. Sur, c'est un chapeau, sur le chapeau, si tu as un talit, sur le talit. Comme ce que les musulmans, ils mettent la oukal sur le kafiya. Le Rashba, il dit que c'est comme ça la halakha. On n'est pas possède comme le Rashba, mais peut-être que Kadosh Baruch Hu, il était possède comme le Rashba. En tout cas, tout ça pour nous dire que cette Mishnah qui nous dit « Hamotzet filin », c'est celui qui voit qu'il a l'opportunité maintenant de dévoiler à Kadosh Baruch Hu « Azmachnissam, zoug zoug, alpi halakha ». Mais Rabban Gamliel nous dit « Mais ceux qui y arrivent, ils peuvent rentrer shtaim shtaim ». Et ces gens-là, à ce moment-là, quand il voit qu'il y en a plein des dévoilements qui sont dehors et qu'il n'arrivera pas tous à les rentrer, Altidag, il va sortir avec eux et il va rester Shama Michutz Latroum kol haShabbat. Celui qui n'est pas à ce niveau-là, alors mechassé veolechlo. C'est pas pour lui pour le moment. Aval, toute l'idée est de finalement ramener ces dévoilements de Dieu à l'intérieur. Parce qu'au final, l'objectif du Ham Israël est de ramener toutes les façons que le monde peut avoir de s'attacher au divin, les élever à la Kedusha, pour que finalement, effectivement, tous les goyim puissent dire Ki Shem Hashem Nikra Alecha Veyareu Mimeka. À bientôt les amis pour un nouvel épisode de la Neshama de la Mishnah.